Laura Dante. C'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Fantasiosi e più pieni di desiderio di superarsi.
Je suis Marie-Antoinette Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
Et nous travaillons au Centre culturel italien d'Antalighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
Laura Dante.
Dans cette émission, nous vous ferons voyager à travers les différents genres littéraires pour découvrir des pépites.
Questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
À chaque fois, nous serons accompagnés par des écrivains et des spécialistes du monde des lettres en Italie.
Et sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato per un amore nuovo.
Ora, sui connotati dei due strani esseri che uscirono dal disco non si ha nessun affidamento. È un tale confusionario, Don Pietro. Nei successivi suoi racconti ha continuato a contraddirsi. Di sicuro si sa solo questo, che erano smilzi e di statura piccola, 1 metro, 1 metro e 10. Però lui dice anche che si allungavano e accorciavano come fossero di elastico. Circa la forma non si è capito molto. Sembravano due zampilli di fontana, più grossi in cima e stretti in basso, così Don Pietro. Sembravano due spiritelli, sembravano due insetti, sembravano scopette, sembravano due grandi fiammiferi. E avevano due occhi come noi? Certo, uno per parte, però piccoli. E la bocca, e le braccia, e le gambe? Don Pietro non sapeva decidersi. In certi momenti vedevo due gambette e un secondo dopo non le vedevo più. Insomma, che ne so io. Lasciatemi una buona volta in pace.
Abbiamo letto un estratto di Il disco si posò di Dino Buzzati, pubblicato dalle edizioni Mondadori in 60 racconti. Benvenuti, questa è Laura Dante, l'emissione per ascoltare e lire l'Italia. E io sono Maria Antonietta Lenzi.
Io sono Francesco Terzi.
E oggi siamo con Daniele Comberiati, maître de conférence all'Université Paul Valéry, spécialiste en science-fiction italienne et aussi en littérature de migration. Bienvenue, Daniel.
Oh, merci et merci pour l'invitation.
Nous avons décidé de lire ce petit extrait de Dino Buzzati, donc le grand auteur italien, parce que représente aussi une partie de la littérature de la science-fiction italienne qui, on pourrait dire, vit sa période de gloire dans les années 50. Et c'est un extrait qui parle d'aliens, d'extraterrestres. Et je crois que c'est un peu le stéréotype de la science-fiction en Italie, que ça parle de l'univers, d'autres planètes. Mais si on est là, c'est aussi pour montrer les différentes facettes de ce genre littéraire. Donc c'est pour ça aussi qu'on t'a invité, c'est pour développer tout ça.
Oui, effectivement, Dino Buzzati, c'est un peu un des grands maîtres de la science-fiction italienne. Pendant les années 50 et 60, surtout, il a beaucoup écrit de science-fiction. C'était une science-fiction particulière, c'est-à-dire qu'en Italie, le milieu culturel et littéraire a toujours eu une grande réticence contre la science-fiction américaine, dans le sens que l'idée, c'était que l'Italie était un pays qui n'avait pas le développement technologique des États-Unis. Donc, la science-fiction était un genre importé par le monde anglo-saxon en Italie. Et la science-fiction qu'on a développée en Italie était plutôt une science-fiction sociologique où on parlait, je sais pas, plutôt d'un monde du futur d'un point de vue politique, social et moins de la technologie. Buzzati a fait les deux, a été quand même un tournant qui a un peu changé l'histoire de la science-fiction italienne.
J'avais lu qu'au début du siècle de 1800, je cite des titres d'œuvres, Il viaggio nell'universo, donc Le voyage dans l'univers de Francesco Vigano, et en 1857, Relation du premier voyage sur la Lune fait par une femme dans l'année 2057. Donc on voit très bien qu'au début, les ouvrages de science-fiction s'inspirent aussi par la nouvelle vague des technologies qu'il y a en Europe, mais ça va aussi bien au-delà.
Oui, c'est exactement ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, c'est une période, en italien on l'appelle cette période la période de la proto-fantascienza, donc de la proto-science-fiction, donc une science-fiction, si tu veux, avant la science-fiction. Il y a des références, bah, des références aussi françaises, comme Jules Verne, etc. etc. La chose intéressante, c'est que la plupart des écrivains de science-fiction, de proto-science-fiction de l'époque, étaient des hommes de science. Ou, comme c'est le cas de femmes de science, mais c'était plus rare, effectivement, à l'époque. Les plus importants étaient peut-être Mantegazza, qui est la personne qui a fondé l'anthropologie en Italie, donc l'école anthropologique italienne, donc vraiment un homme de science, et qui écrit un roman qui s'appelle L'anno 3000, l'an 3000. Il a été traduit en français, donc tout simplement un voyage dans les temps jusqu'à l'année 3000, où il invente un peu l'histoire du monde et ce monde du futur, qui est un monde, si on le lit aujourd'hui, terrible, parce que dans son idée, c'était une utopie. Aujourd'hui, on la lit comme une dystopie, c'est un monde parfait, mais dans le sens que les enfants qui naissent sont décidés avant, parce que tout enfant doit être parfait. Donc, il y a vraiment le génétique presque nazi.
Oui.
Ça me fait réfléchir autour d'une question, c'est-à-dire la fantascience, on croit que la fantascience c'est quelque chose d'étrange, qui ne correspond pas à le monde réel, alors que c'est possible en vérité de parler de notre monde grâce à la fantasion, grâce à la science-fiction, et de plus, comme la fantascience a été un genre peu pratiqué, peu considéré par la critique, c'est un genre qui est adapté pour parler de notre société parce qu'il était moins influencé par la culture, par le mainstream, on pourrait dire. Tu es d'accord avec ça? Et donc, comment la science-fiction peut nous aider à parler de notre monde?
Alors, je commence par la réponse simple. Je suis parfaitement d'accord. Il y a une théoricienne féministe italienne, mais qui a travaillé toute sa vie aux États-Unis, Rosy Braidotti, qui disait justement que dans les expressions culturelles populaires dont la science-fiction fait partie, très souvent, on voit mieux l'idéologie du temps. Pourquoi ? Parce que ce sont des productions pour un public large où il n'y a pas derrière, entre guillemets, le génie individuel de l'auteur, se sont faits pour un public énorme, et donc effectivement, le côté idéologique ressort. Cela dit, il faut dire aussi que la science-fiction italienne a toujours été considérée au début comme un genre d'évasion. Donc on parle de science-fiction parce qu'on veut éviter les problèmes de l'actualité. C'était exactement le contraire. C'était mettre en évidence, souligner jusqu'à l'exaspération, je dirais, les problèmes de l'actualité. Un exemple pratique, moi j'ai commencé à écrire un livre sur la science-fiction italienne pour un éditeur américain avec Simone Brioni, un collègue qui travaille à Stony Brook à côté de New York. On a commencé à l'écrire en 2015 et au début on avait du mal à trouver des livres de science-fiction en Italie. Bah, il y en avait bien évidemment, il y en avait plusieurs, mais c'était pas une liste énorme. Maintenant, la dystopie est donc un sous-genre de la science-fiction, est légende italienne de référence. Tous les écrivains et même des films parlent de dystopie. Donc, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui a, on pourrait dire, dépassé la science-fiction, guerre, pandémie, etc. etc. Et donc, la science-fiction est devenue pour moi le nouveau réalisme. Alors que pendant des années, il avait l'idée que le réalisme était un genre italien, autochtone, la science-fiction s'était importée. Rien de moins vrai, à mon avis.
Oui, j'ai lu que Visconti, par exemple, donc très célèbre pour ses films réalistes, était un grand appréciateur de science-fiction. Pasolini, qui a écrit des choses très crues, qui a fait des films très crus aussi, par exemple, a écrit une recension, un commentaire très élogieux d'un roman dont vous parlera tout à l'heure, Lo Smeraldo. Et donc, effectivement, la fantascience, c'est un peu amener la réalité à son extrême. C'est en tout cas comme ça qu'en Italie, souvent, a été interprété dans les genres littéraires.
Ah oui, ça aussi c'est intéressant parce qu'il y a plein des écrivains réalistes qui ont aussi écrit de la science-fiction, ce qui montre d'un côté la difficulté, voire l'impossibilité à définir un écrivain qui dans sa carrière écrit plusieurs choses, et de ne pas considérer la science-fiction tout simplement comme un genre, mais comme une pratique littéraire. qui peut aussi utiliser du réalisme, parce que la science-fiction peut être aussi réaliste. Et tu parlais de Pasolini, de Visconti, même Cesare Zavattini, qui a été, on pourrait dire, l'âme du néoréalisme italien, c'était le scénariste le plus prestigieux du néoréalisme, pour la RAI, pour la télévision publique italienne, pendant les années 60, crée un programme de science-fiction. Donc, imaginez que la même personne est en même temps extrêmement réaliste et fait de la science-fiction. Ce qui montre effectivement que les limites, les frontières entre les deux expressions souvent sont un peu plus nuancées de ce qu'on pense.
C'est de l'autre côté de la médaille.
Une question à répondre vite, j'espère. Tu avais dit que la science-fiction est quelque chose que en Italie a été importé par l'Amérique, ou ça, au moins, c'est ce que les gens croyaient. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui des auteurs de la science-fiction italienne qui prendre l'inspiration des œuvres américaines, ou il y a aussi une production italienne qui inspire les gens qui écrivent aujourd'hui de la science-fiction?
Alors, ce que je disais était la perception de la science-fiction. Donc, oui, effectivement, à l'époque, c'était vrai. Imaginez que pendant les années 60, la plupart des écrivains italiens de science-fiction publiaient avec des pseudonymes anglophones pour montrer qu'ils n'étaient pas italiens. Et il y avait un critique italien, Carlo Fruttero, qui avait écrit dans un article « Un vaisseau spatial ne peut pas arriver à Lucca. Il doit arriver dans le Wisconsin, dans le Minnesota, mais pas à Lucca ou à Florence. » Juste pour vous montrer un peu qu'il y avait aussi un côté exotique, non, dans la science-fiction. Aujourd'hui, c'est différent. Après, c'est vrai que l'influence américaine dans la culture italienne est forte, même aujourd'hui, parce que pas seulement dans la littérature, dans les films, dans les séries, mais c'est vrai qu'il y a une tradition italienne. Hein. Tout récemment, il y a 3-4 ans, Canal Plus a montré et a même coproduit une série télé qui s'appelle Anna, de Niccolò Ammaniti, qui était un roman qui est devenu une série télé, pour Ammaniti, l'écrivain et aussi co-réalisateur de la série. Et c'est une série de science-fiction qui se passe en Sicile. Donc voilà, oui, on peut voir derrière des échos, des influences américaines, mais pas que.
Laura Dante, c'est l'émission pour écouter et lire l'Italie.
Con l'amore è l'unico sentimento che ci fa battere il cuore.
Je suis Maria Antonietta Lenzi.
Je suis Francesco Terzi.
E noi lavoriamo al Centro Culturale Italiano d'Antalighieri.
E così non hai soprattutto parlato agli altri.
Laura Dante.
Questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia.
Tutti i libri di cui abbiamo parlato sono disponibili nella nostra biblioteca au 25 Rue Saint-Ursule, car le but de notre association est de promouvoir la langue et la culture italienne sur le territoire de Montpellier. Alors, venez nous rendre visite dans les Cussons.
E sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai.